Bienvenue à cette table ronde autour de l'Empire, on l'a dit. Alors, l'Empire, c'est pas forcément celui auquel vous pensez automatiquement par les temps qui courent. Hein. Il y en a d'autres, on va vous en présenter quelques-uns. Il y aura peut-être un peu moins de sabres laser. Mais on va essayer de voir un peu les diversités, alors pas forcément des diversités de l'Empire eux-mêmes, mais des personnages qu'on trouve dans ces sagas de fantasy ou dans ces séries, où l'on trouve des personnages qui sont amenés à travailler pour l'Empire, parfois à se rebeller contre lui, parfois c'est les deux, et on le verra en particulier avec Anthony Ryan, il y a justement peut-être un peu ce côté-là du changement du personnage. Et puis ça va nous amener finalement à des thématiques assez classiques de fantasy. Et on va commencer avec Anthony Ryan, peut-être pour, puisqu'on est dans des sagas, on va essayer de planter un petit peu le décor. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le point de départ de la trilogie Bloodsong?
Hello, everyone. Bloodsong and the succeeding two volumes in the trilogy are an exploration of heroic fantasy, really. One of my key influences is David Gemmell, or Gemmell, I think is a French pronunciation. I don't know if anyone's familiar with it.
Oui, donc Bloodsong, en fait, qui est au départ comprenait deux tomes et qui maintenant en inclut un troisième, c'est en fait une exploration d'une fantasy héroïque, un petit peu à la façon de David Gemmell.
The first volume is told entirely from one point of view, and the succeeding volumes I introduce more points of view in order to expand the world and convey a sense of scale. In terms of evil empires, there is one evil empire and one quasi-good empire in that world. The Alperans are sort of good, and the Valarians are evil and slave-owning and completely horrible. But something I did want to explore in the series is that there are the notion of what is good and what is evil is a spectrum, depending on who you are and where you grew up.
Alors en fait, je suis partie dans le volume 1, finalement on avait un seul point de vue, on avait un personnage que l'on accompagnait, et en fait dans les deux tomes, l'univers s'est élargi, puisque l'univers s'étendait, on a changé d'échelle, avec finalement, on a découvert un empire un peu mauvais, un peu maléfique, et donc cet empire, il y avait des opposants qui eux étaient plutôt du côté du bien, mais finalement peut-être pas si bons non plus. Et en fin de compte, ce que j'ai voulu explorer, c'était vraiment cette différence entre le bien et le mal, et finalement, est-ce que le bien était toujours le bien, le mal était toujours le mal? J'ai beaucoup travaillé sur cette thématique-là.
So as the story develops, something I wanted to explore was this notion of in fighting evil, do you become evil? I have a character, she starts out as Princess Lerna at the start of the first book. By the end of the third book, she's basically an empress of half the world, but she's killed lots of people getting there. In her mind, for very good reasons, it's partly an act of vengeance, partly an act in order to secure her own future and the future of her people. But nevertheless, it takes place in a kind of moral void. She's reached a point where notions of good and evil as they apply to ordinary people don't apply to her, at least in her own head.
Donc en fait, dans ce monde, on a donc une série de gens qui combattent cet empire mauvais. Et en fait, quand on la question que je me posais en écrivant ça, c'est quand on combat le mal, est-ce que finalement on ne va pas quelque part devenir mauvais? On a l'exemple donc de Leyana, la princesse Leyana, qui à partir du deuxième volume, le personnage se développe et ensuite elle va finir par devenir impératrice de à peu près la moitié du monde de cet univers-là, et qui finalement, pour arriver là et pour protéger des valeurs qu'elle pense être bonnes, a finalement tué un bon paquet de gens. Pour de très bonnes raisons à son avis, mais finalement on a quand même toujours un petit peu cette question morale derrière. Est-ce qu'elle n'est pas devenue mauvaise en voulant défendre le bien?
And I should have said spoiler alert. Sorry.
Et donc j'ai spoilé, désolé.
On va voir, on va retrouver des thématiques communes avec avec la route de la conquête. Alors, vous vous fiez pas au diaporama. On va pas parler de Port d'Âme dans ce café littéraire parce que on va parler de l'Empire, et l'Empire, il est plutôt effectivement dans la route de la conquête et dans la volonté du dragon. Justement, Lionel, est-ce qu'on peut avoir un peu un état des lieux de ce recueil, puisqu'en fait, ce sont une novella et trois nouvelles. Quel est l'Empire justement qui est mis dedans et dans quelle situation est-il?
Alors, le cadre de la route de la conquête et de la volonté du dragon, c'est que donc il y a un grand empire qui a trouvé en gros comment apprivoiser les énergies magiques du monde pour en faire des machines, qui se considère extrêmement évolué. Il y a eu une grande guerre avant qui n'est pas encore abordée dans les livres. Ils ont sauvé le monde, plus ou moins. Et comme ce sont les gens les plus évolués, comme beaucoup d'empires, ils se sont dit, en fait, si c'était nous qui commandions, tout serait vachement mieux. Donc, ils partent dans cette croisade animée, évidemment, effectivement, comme il y a des parentés avec Anthony Ryan, animée des meilleures intentions. Et notamment, la route de la conquête couvre à peu près le millénaire que constitue donc la conquête, justement, de l'Empire, qui, en gros, pour résumer, faut imaginer comme l'Empire romain doté de l'arme atomique. À peu près, dans l'esprit. Comme l'Empire romain, ils se disent qu'ils vont civiliser le monde, comme Alexandre le Grand, etc., donc comme les grands empires de l'Antiquité. Et donc, la route de la conquête et les récits, c'est l'occasion de poser des questions sur cette marche de ce courant historique qui, en fait, est la marche de l'Empire est plus comme un courant irrésistible qu'un courant mondial, et comment les gens résistent à ça, s'y opposent, vainquent parfois, ou comment les civilisations éventuellement se rencontrent, et surtout ce qui m'intéresse encore plus, c'est comment les gens qui sont pris qui sont les militaires de l'Empire, qui ont baigné dans cette culture, peuvent éventuellement à un moment lever la tête du guidon et se dire une seconde, est-ce qu'on fait bien est-ce que ce qu'on fait est vraiment bien, et est-ce qu'on s'est pas perdu en route, est-ce que c'est vraiment une bonne façon de parfois massacrer des milliers de gens pour sauver le monde de lui-même, est-ce qu'il n'y aurait pas une contradiction dans les termes?
Olivier Gay, les épées de glace, c'est un diptyque, même si là on a les deux romans dans un seul, où on est là aussi dans un cadre alors un petit peu différent de ce qu'on vient de voir, mais on a encore un pouvoir central, on va dire, et puis on va voir qu'il va se retrouver aux prises avec à la fois lui-même, ce pouvoir central, et puis avec un fauteur de troubles un peu particulier.
Oui, bonjour. Pour moi, les empires commencent toujours d'une bonne idée. C'est-à-dire qu'au début, les empires commencent toujours petits, commencent en disant il faut se protéger des brigands, il faut se protéger des bêtes sauvages, donc on va créer une palissade. Et puis une fois qu'on a créé une palissade, on va mettre des champs, de plus en plus de champs dans la palissade. On va créer une milice pour protéger cette palissade. Et au fur et à mesure, effectivement, l'Empire va naître d'une idée de base qui était simplement on va se protéger, on va essayer d'avoir nos besoins satisfaits. Et au final, ça va effectivement évoluer sur l'idée de dire puisqu'on vient de vaincre notre voisin qui nous a envahis, pourquoi est-ce qu'on l'envahirait pas à notre tour ? L'exemple que donnait Lionel, effectivement, de l'Empire romain qui est né sur les guerres en Italie. Et ce qui est intéressant avec les empires de manière générale, qu'il s'agisse d'un empire à la Star Wars, il se trouve que j'ai lu Bloodsong aussi, mais qu'il s'agisse d'un empire de ce genre, c'est qu'il y a des gens au sein de l'empire qui sont très contents d'en faire partie, qui ne sont ni méchants ni gentils, qui sont des gens comme nous, et qui considèrent simplement que l'alternative serait pire. C'est-à-dire que ils sont protégés, ils ont des vêtements, ils ont de quoi vivre, donc finalement pourquoi se soucier du reste? Et certains vont même aller plus loin en se disant finalement, est-ce que c'est gênant d'aller détruire les voisins si nous ça nous apporte de la richesse, si nous ça nous apporte du confort, etc. etc. Et c'est vrai que c'est cette logique qui va faire qu'on peut effectivement déborder à ce niveau-là. Et donc pour terminer, moi effectivement dans les épées de glace, on va voir en fait une personne qui était autrefois un allié de l'Empire, que l'Empire a utilisé, qui a été exilé pendant 20 ans, 25 ans, et qui finalement, après cette période de temps, va demander des comptes à l'Empereur.
Exilé pour le bien de l'Empire.
Exilé pour le bien de l'Empire, exactement. Utilisé par l'Empire pour faire ses basses manœuvres. Et une fois qu'il a été utilisé jusqu'à la corde, l'Empire qui fait « Oh là là, tu as fait beaucoup trop, c'est affreux ce que tu as fait, on va t'exiler ». C'est un petit peu comme ce qu'on peut voir à certaines personnes qui vont porter le chapeau, y compris dans notre société actuelle, pour les crimes ou des choses qui ont été commises par d'autres. Et c'est vrai que 20 ans, 25 ans après, bah, il va demander des comptes en disant bah, « Attends, moi j'ai accepté de jouer ce rôle pour une seule raison, c'est pour que ma famille et notamment ma fille puissent avoir une vie que je n'ai pas eue. Là, ma fille, tu viens de me dire qu'elle est morte, je ne suis pas forcément très content. » Voilà.
Nabil Ouali, La Voix de l'Empereur, 2 tomes pour l'instant, d'autres à venir parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Lorsqu'on découvre le début de ce premier tome, on est dans un empire qui, allez, il était bien installé, et puis on sent que ça vacille un peu parce qu'il y a une menace religieuse qui plane, il y a une volonté presque, j'allais dire, de faire une OPA sur le pouvoir en place de la part de ce culte religieux, et bah voilà, on se retrouve dans cette situation d'un empire dans la tempête.
Ok, ça marche. Oui, tout à fait. En fait, l'empire est assez jeune au moment du premier tome, donc il a à peu près une quarantaine d'années, vu que c'est le père de l'actuel empereur, en fait, qui a réussi à pacifier, plutôt dire unir, par des moyens militaires et diplomatiques, 6 royaumes qui, à la base, provenaient du même peuple, mais qui avaient fini, au cours des siècles, qui avaient fini en fait par se séparer. Donc le père donc de l'empereur en place et donc le grand-père d'un des héros de l'histoire, donc le prince, a réussi à unir 6 royaumes sous un seul étendard et a fondé donc l'empire de Ferva. Et effectivement, ce qui se passe en fait, c'est que un des royaumes, qui est une théocratie dirigée donc par ce qu'on appelle les Justes, qui est encore archiépiscopal en fait, donc des supérieurs religieux, se dit, alors oui, c'est très bien, on est dans un empire pacifié, super, mais étant donné que nous sommes les plus aptes à savoir ce qui est vertueux, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est moral, serait tout à fait normal que nous ayons davantage notre mot à dire sur la gestion de l'empire. Donc soit ça passe tout simplement par un coup d'État, on se débrouille pour mettre un roi saint, le roi saint, donc c'est le roi de Lambor, donc le royaume d'Éclair. On se débrouille pour mettre un roi saint sur le trône impérial. Soit, plus subtilement, on décide en fait d'engager un précepteur qui va se débrouiller pour que le prince, donc l'héritier du trône, soit quelqu'un qui soit parfaitement en adéquation avec les intérêts du clergé. C'est cette solution que le clergé a choisie. Et c'est comme ça qu'on assiste donc à la rencontre entre 2 personnages, donc un jeune prêtre, tout droit sorti d'un séminaire, qui va devenir l'éducateur du prince, et le prince qui est un peu perdu dans tout ça, qui sait très bien que son avènement sera fragile et plus qu'incertain, et ils vont composer là-dessus.
Sachant qu'on a, là pour le coup, on a des personnages qui servent l'Empire, on a d'autres qui le combattent, et on en a qui agissent uniquement pour leurs pommes.
Oui, clairement, enfin, il y a pas mal de personnages qui sont assez, assez centrés sur leur propre intérêt, mais même parmi les méchants, ce qu'on appelle les méchants, mais encore une fois, c'est comme
c'est difficile de les cerner,
voilà,
parfois.
C'est très difficile de dire méchant dans un univers qui est très gris, où les gens ont simplement des intérêts contradictoires, en fait. Mais effectivement, ceux qui sont considérés comme méchants par le point de vue de la plupart des lecteurs, je pense, parce que simplement c'est le point de vue de la plupart des personnages auxquels on a tendance à s'attacher, n'ont pas forcément des intérêts personnels, cupides, à part quelques-uns peut-être. Mais par exemple, le roi saint est quelqu'un qui veut juste la domination de son royaume et de son peuple.
Le personnage de Glaoual est quand même un peu...
Oui, le personnage de Glaoual, donc, qui est le prêtre qui est chargé de l'éducation du prince, est un personnage assez gris parce qu'on sait déjà d'emblée que c'est un traître. Donc voilà. Donc c'est assez dur de le cerner, c'est assez dur de savoir ce qu'il veut.
Il est prêt à trahir tout le monde, donc en même temps, ça finit par s'annuler. Hein, c'est comme les multiplications des nombres négatifs. Anthony Ryan, on a parlé de l'Empire, mais à côté de cet Empire, enfin à côté, vous allez peut-être me contredire, on a un culte très puissant qui est, on a l'impression qu'il est un peu le bras armé finalement de cet Empire, sauf qu'au fur et à mesure, on se rend compte que c'est un Empire qui a quand même aussi des intérêts propres. Et que voilà, il y a peut-être des moments où ce culte va agir peut-être à l'encontre de la volonté de l'Empire.
It struck me because I read a lot of history. It struck me in reading that church and state they're not always pursuing the same interests. In fact, sometimes their interests are competing and antagonistic. And in the realm, the unified realm, which I made up, I took the view that the faith, which is a principal religion in the land, they have allied themselves with the crown for peace, for the sake of peace, because they're tired of all these wars. But in doing so, they've allied themselves with a particular kind of king who basically will stop at nothing to secure his legacy, even if it means killing a lot of people. So the self-interest of the faith, in some ways, is kind of positive. It's kind of compassionate. I wasn't interested in writing some kind of anti-religious tract because it's been done and been done a lot better than I could do it.
Alors en fait, j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, enfin sur l'histoire avec un grand H. Et en fait, l'histoire nous montre que très souvent, l'Église et les États ont des intérêts divergents. Donc, on a dans l'univers de Bloodsong, en fait, la foi s'est alliée à l'État, donc la religion s'est alliée à l'État dans l'intérêt de la paix, mais finalement on s'aperçoit que le roi, pour faire régner cette paix, a besoin de tuer des gens, et que pour tuer ces gens il va s'appuyer sur ce fameux ordre religieux pour aller finalement faire les basses besognes de l'Empire au nom de la paix.
Et justement, dans le premier tome, on se retrouve avec le point de vue de ce personnage qui se retrouve très jeune, embarqué dans cette aventure à travers son intégration à un des ordres de ce culte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce personnage va évoluer finalement au fur et à mesure du premier tome, jusqu'à se poser sérieusement des questions sur ce qu'il fait.
Main character gets to a point by the end of the first book, once again, spoiler alert, that he realizes the faith that he's been raised in, the faith that he actually believes for most of his life, what underpins it is a lie. It's based on a lie. Or more charitably, a misunderstanding of how the supernatural works in this particular world. And from that point on, he is distinctly non-religious. He's a non-believer from that point on.
Alors en fait, oui, c'est vrai que ce personnage principal, en fait, qui intègre cet ordre très jeune et qui au départ croit profondément en les préceptes de l'ordre, va au fur et à mesure qu'il grandit et que il va commettre des méfaits, se rendre compte à un moment donné que cette espèce de foi qu'on défend, ça n'est qu'un mensonge. Il va se rendre compte qu'on lui a menti, et il va un mensonge ou en tout cas une incompréhension, et du coup il va prendre du recul et il va commencer à remettre en cause les préceptes qu'on lui a inculqués.
Lionel, on va retrouver d'ailleurs là encore des points communs, en particulier dans la novella La Route de la Conquête, hein, puisqu'on a un peu la même trajectoire que ce que vient d'évoquer Anthony Ryan à l'instant. Pas avec un jeune, mais au contraire avec une vieille de la vieille, si j'ose dire, puisque c'est une officier qui se retrouve elle aussi à un moment à se poser sérieusement des questions. Avec, à partir de la confrontation, alors c'est ça aussi qui est très intéressant, et je pense qu'on y reviendra également avec Anthony un peu plus tard, c'est que dans La Route de la Conquête, finalement, ce qui est presque le plus intéressant, c'est pas l'Empire lui-même et ses avancées, c'est les contrées dans lesquelles ça se passe, et c'est les peuples que l'Empire est amené à rencontrer, avec la volonté de les civiliser, on va dire ça comme ça. Et finalement, c'est aussi là qu'il va y avoir des hiatus dans le récit et dans la démarche de ceux qui mènent l'Empire.
Oui. George Martin disait, qui est passionné d'histoire et qui revendique son inspiration pour Maurice Druon pour écrire Le Trône de Fer, il dit: ce qui m'intéresse dans l'histoire, ce sont les histoires. Et je trouve que finalement, c'est très juste. Dans Evanégir, je ne fais absolument pas mystère des grands mouvements de l'histoire. À un moment, l'Empire se casse la figure. Il en suit une période de chaos et puis les civilisations remontent. Si je vous dis ça, je ne vous ai pas vraiment raconté une histoire, en fait. Je vous ai juste donné des événements, et c'est en général, c'est pour ça, il y avait un table ronde ce matin où quelqu'un disait: l'histoire, j'ai toujours eu du mal parce que j'ai du mal à retenir les dates. Je suis assez d'accord, mais j'ai fini par me rendre compte que l'histoire, en fait, c'est beaucoup plus que ça. L'histoire, c'est pas juste un matériau très, très sec. C'est des gens qui l'ont vécu, c'est des gens qui ont été dedans. Et c'est ça, moi, que je trouve fascinant, c'est confronter... Quand on est lancé dans la, par exemple dans les croisades, qu'on apprend à l'école, on apprend les grands mouvements, etc. C'est la grande histoire, c'est pas forcément, c'est ça. On a du mal à établir un lien avec ce qui s'est passé. Par contre, s'intéresser au sort du fantassin qui est là-dedans en train de marcher, animé par une espèce de fanatisme qui mange de la boue tous les jours, et ça, c'est intéressant parce que ça. Ça peut permettre, et c'est un des grands plaisirs de la littérature, ça permet de se mettre dans la tête de quelqu'un, de comprendre ce qu'il vit, d'essayer de réfléchir à comment il pense. Moi, j'écris pas mal de trucs sur, je pense, les choses qui me grattent. La guerre, par exemple, un truc que j'ai vraiment beaucoup du mal à comprendre, et pourquoi est-ce que... Enfin, intellectuellement, je le comprends, mais...
Pour ceux qui n'auraient pas lu, on va peut-être expliquer un petit peu, c'est que quand ils arrivent avec l'armée en conquête, ils ont une puissance extraordinaire, ils arrivent dans un peuple qui est absolument totalement pacifique, qui ne demande rien à personne, qui vit, alors qu'il y a peut-être des traditions, ça aussi intéressant, puisque là on est encore dans le gris plus que dans le blanc et noir, des traditions qui vont choquer de l'autre côté, mais qui sont des traditions, qui sont une culture. Et puis à côté de ça, voilà, on a cette espèce de déferlement à la fois idéologique, militaire, qui arrive et qui voilà, a l'impression pas de se heurter à un mur d'incompréhension en tout cas.
Bah, effectivement, la généralissime qu'on a vu en second rôle dans le livre précédent, qui était La Volonté du Dragon, même si on peut lire les deux parfaitement indépendants, là, elle est au sommet de la hiérarchie militaire, arrive à la fin de sa vie, et en fait, elle se trouve confrontée finalement à peut-être à l'absurdité de son plan de conquête. C'est que la doctrine impériale prophétise et dicte qu'il faut que le monde entier soit unifié, sinon une terrible catastrophe va arriver. Elle se trouve confrontée à des gens qui vivent en parfait équilibre avec l'environnement, avec certes des traditions qui peuvent choquer un esprit, pour résumer, occidental, que ce soit le lecteur ou l'Empire, qui est quand même très, très, très romain, mais plus le romain rêvé et mythologisé tel qu'on le fait par l'Occident que par Europe. C'est de la fantasy. Hein, donc, et ça me paraît toujours des situations intéressantes à aborder. Je ne veux pas faire que ça dans Evangelion, c'est pour ça que j'ai fait Port d'âme aussi, qui est totalement différent. Mais ça me paraît, c'est des questionnements que l'imaginaire, que surtout la science-fiction nous a donné, en fait. C'est des problématiques de premier contact. On a un mode de pensée poussé par quelque chose. Ici, un plan de conquête est très clair. Et on est confronté à une civilisation qui n'arrive pas à se parler. Comment on fait pour arriver à se parler? Et comment chacun assume ses responsabilités ou pas? Est-ce qu'on suit, justement, c'est tout le thème de la table ronde, est-ce qu'on suit le diktat impérial ou est-ce qu'on essaie de tortiller avec pour essayer de trouver une façon de le tordre d'une manière qui permette de mieux vivre avec soi. Donc c'est tout un, c'est fait dans les deux bouquins impériaux, donc qui sont La Route de la Conquête et La Volonté du Dragon. C'est vraiment les questionnements qui sont en filigrane, et ça me paraît des situations riches de potentialité pour réfléchir sur l'histoire, mais à travers les gens qui la vivent. Et il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de message, il y a juste des expériences de pensée, en se disant, pour moi auteur et peut-être pour les lecteurs, si j'étais à la place de ces types-là, est-ce que d'une, j'arriverais à me rendre compte, d'arriver à hausser la tête du guidon en me disant dans quoi je suis, est-ce que j'approuve, et qu'est-ce que je ferais derrière ?
Olivier Gay, on a un peu planté le décor de cet empire. Il faut dire aussi qu'il y a, à travers la première partie de ce diptyque, des questions de succession qui interviennent également, qui font qu'il y a des soubresauts dans cet empire, qu'on a un grand-père qui était visiblement un roi adoré, conquérant, glorieux. On a le monarque actuel, enfin l'empereur actuel, qui lui se rêve mécène, artiste, brillant par la culture, alors qu'en fait on comprend qu'il n'est pas tout à fait arrivé à ce qu'il cherchait à faire. Et puis on a Théorocle, qui lui est l'archétype du dictateur, on peut dire ça comme ça.
Bah, c'est vrai que il n'y a pas plus de cons chez les riches que chez les pauvres. Hein. Globalement, c'est les mêmes pourcentages. Simplement, ça se voit plus facilement chez les riches parce qu'ils ont plus de pouvoir. Donc, forcément et mécaniquement, vous prenez un con qui devient empereur, ça fait plus de dégâts qu'un con qui était simplement soldat. Et c'est vrai que ça, c'est un phénomène qu'on voit un petit peu dans tous les genres, dans tous les domaines. Et ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que finalement, quand on dit le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu, si on n'a pas de contre-pouvoir, on va finir par avoir quel que soit notre bon côté, on va finir finalement peut-être par avoir des mauvaises idées, des mauvaises pensées, des mauvaises actions. Et moi, il y a également quelque chose qui m'a frappé, on parlait de la succession. Lionel parlait de l'histoire avec un grand H, enfin de manière générale. Et moi, c'est sur tout ce qui était, notamment toutes les conquêtes napoléoniennes, et le fait que vers la fin de l'Empire, en fait, Napoléon un jour a été cru mort. On a cru en fait qu'il était mort dans une bataille. Et le jour où la nouvelle est arrivée à Paris, tous ses généraux se sont battus en fait pour essayer de récupérer les miettes de son empire, pour diviser l'empire, etc. Alors qu'il avait un héritier. Il avait un héritier qui était son fils, qui était le roi de Rome, qui avait un an et demi. Hein, donc voilà. Mais il avait un héritier déclaré et tout le monde s'en foutait. L'intérêt, c'était de dire, Napoléon mort, maintenant, qui est-ce qui récupère le pouvoir? Qui est-ce qui récupère l'empire? Qui est-ce qui a la fidélité des armées, etc., etc.
Quand le lion est mort, les chacals se disputent l'empire.
Exactement. Et ça, on le voit d'ailleurs dans tous les empires qui ont existé, que ce soit l'Empire romain ou napoléonien ou quoi que ce soit, ou Alexandre le Grand, c'est que la personne qui contrôle l'armée, souvent, est la personne qui va avoir évidemment le plus de facilité à pouvoir s'assurer le pouvoir, tout simplement parce que l'armée, ça permet de taper sur ceux qui ne sont pas d'accord jusqu'au moment où ils sont d'accord. C'est ce qu'on peut voir effectivement dans les épées de glace, c'est-à-dire se dire...
Avec une particularité quand même, puisqu'on est dans le thème pour ou contre l'Empire, c'est qu'on a au début du livre un empereur qui, dès qu'il sort de son palais, manque de se faire assassiner à peu près à chaque coin de rue. C'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a une légère tension avec son peuple.
Alors oui, parce que ça, moi j'ai trouvé ça intéressant de prendre un contre-pied, c'est que très souvent en fantasy et de manière générale, il y a des empereurs bellicistes. Et il y a des mouvements anti-guerre, des gens qui ne sont pas d'accord, qui disent « j'ai perdu mon fils, j'ai perdu mes enfants, il faut arrêter la guerre, etc. » Et moi, j'ai pris le contre-pied, c'est-à-dire qu'effectivement, on avait un empereur belliciste, et maintenant, au contraire, on a un empereur qui est plutôt pacifiste, qui est très content de l'empire qu'il a eu, dont le seul objectif, c'est de développer les arts, de développer la propreté dans sa ville, etc., qui va dépenser beaucoup d'argent là-dessus, sauf qu'il a du coup des dizaines de milliers de vétérans de l'armée qui ont été démobilisés et qui disent « nous, on était des héros, on se battait, on allait à l'étranger pour apporter la civilisation », entre guillemets, et maintenant, on se retrouve dans le caniveau parce que plus personne n'a rien à faire de nous. Et donc, effectivement, l'empereur, au lieu d'avoir à faire face à une fronde de personnes qui seraient contre sa politique, anti-militariste ou quoi que ce soit, va se retrouver finalement à faire face à l'inverse, c'est-à-dire des gens qui disent « mais on veut une guerre, on veut une guerre, moi je veux redevenir sergent, moi je veux du butin, je veux des femmes à violer ». Voilà, des logiques en fait qui vont pousser certaines personnes à dire « mais pourquoi est-ce qu'on bouge pas ?»
Nabil Wali, là encore, on l'a dit, on a un empire... qui a des petits soucis à son sommet, et qui surtout, puisqu'on parlait de dynastie et de transmission, sans trop en dévoiler évidemment, parce qu'il y a des éléments clés qu'il faut garder sous silence, mais c'est vrai qu'il y a aussi un avenir qui est incertain à ce niveau-là. C'est aussi, on a l'impression pour ça, que les intérêts convergents des adversaires de l'Empire commencent à se dévoiler. C'est qu'il n'y a pas une grande confiance dans le prince. On ne voit pas en lui un monarque qui puisse être brillant et être suffisamment autoritaire.
Oui, c'est vrai que la justification, le prétexte à la machination, etc., c'est cristallisé autour du personnage du prince. C'est-à-dire qu'on part du principe que le prince, il est bof, donc nous on n'est pas d'accord, on va vous expliquer pourquoi, et mieux que ça, on va même vous montrer pourquoi on a raison, et surtout on va vous balayer en fait. Et tout ça, c'est effectivement cristallisé autour simplement de la seule faiblesse du prince. Alors même qu'il y a des généraux qui sont compétents, alors même que l'Empire est extrêmement stable, en fin de compte, au moment où le prince est en mesure d'hériter du trône. Donc, et on comprend bien du coup que non, l'Empire, il n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin d'un empereur plus vertueux, il n'a pas besoin que les clercs arrivent au pouvoir. C'est juste les clercs qui ont besoin d'arriver au pouvoir, plutôt le désir.
Le paradoxe, c'est que ça pousse... Éline, hein, c'est ça, à agir, comme on le disait tout à l'heure avec Antinarian, c'est à devenir violent, parce qu'il faut faire ses preuves. Et comment on fait ses preuves quand on est un apprenti empereur, en quelque sorte? C'est en montrant sa force, sa puissance physique.
Exactement. Donc, effectivement, Éline étant un personnage extrêmement, irascible, il va partir du principe que si le clergé veut intenter à son pouvoir, sous prétexte qu'il est faible, et ben lui et ses alliés vont montrer à tout le monde qu'effectivement il est fort. Et ça ne va pas aller forcément dans le fait d'aller organiser une répression dans les rues, ça ne veut pas dire aller faire la guerre chez le voisin qui veut prendre le trône. Non, ça veut dire simplement faire des démonstrations de force, choisir quelques personnes et leur montrer dans des scènes clés que non, le prince, Éline, n'est pas du tout quelqu'un de faible. Mais au-delà de ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça en dit long aussi sur la manière dont l'Empire se conserve. Ce qui est amusant, et ça se remarque dans l'histoire d'une manière générale, que ce soit Marc Aurèle, Darius, l'histoire de Babylone, que ce soit l'empereur Palpatine dans Star Wars, etc., la construction des empires sont systématiquement des phénomènes de pacification. Ce qui est assez paradoxal, en fait. Paradoxal. Ce qui semble paradoxal, les philosophes appelleraient ça plutôt une tension en fait. Mais à partir du moment où un empire se construit, un empire élargit ses frontières, on considère que effectivement il fait la guerre pour ça la plupart du temps, même si la diplomatie peut jouer, etc. Les accords commerciaux, etc. Mais c'est un phénomène de pacification. Le but c'est d'élargir les frontières pour qu'on n'ait plus d'ennemis à affronter, près soit de la capitale, soit des points de pouvoir, soit simplement des points névralgiques de commerce, soit tout simplement auprès de notre peuple, parce que c'est notre peuple et on l'a pacifié. Et c'était assez amusant de se rendre compte que dans la littérature, dans le cinéma, etc., quand il y a une histoire d'empire et qu'on doit soit protéger, soit défendre, on parle d'une guerre, alors que le but de l'empire, c'est au contraire de pacifier. Pacifier par l'arme, mais pacifier quand même.
Civis pacem, parabellum. Voilà. Anthony Ryan, on retrouve dans ce que vient de dire Nabil Wally des choses qu'on trouve également dans Bloodsong, et en particulier justement cette campagne qui va amener vraiment les doutes auprès de votre personnage principal, en tout cas dans le premier tome, où on retrouve justement cette volonté d'un empire de s'agrandir alors que c'est pas forcément fondamental pour lui, il n'y a pas une question de survie. Et vous posez quand même la question de cet impérialisme dans Bloodsong.
Human beings have an infinite capacity for justifying their actions, regardless of how vile their actions might be. You can justify anything and convince yourself you're the good guys. There's a famous comedy sketch by the British comedy duo Mitchell and Webb, where it's these two SS officers on the Eastern Front who suddenly realize that they're the bad guys, and it hadn't occurred to them before.
En fait, l'être humain a une très grande capacité à justifier ses actions et à se faire passer pour le bon gars, le bon garçon, alors même qu'il peut faire des choses discutables. Et on voit notamment dans certains films, il y avait en tête une scène d'un film, il y avait deux SS qui discutaient pour justifier ce qu'ils étaient en train de faire et où finalement, de leur point de vue, ça paraissait justifié.
In the case of my book, the war that takes place, the major war that takes place, is deliberately manufactured. The powers that be create lies about the threat that's posed by the competing empire. This may sound familiar if you're a student of recent history.
Donc dans mon livre, en fait, la guerre dont il est question, notamment dans le tome 1, c'est en fait une guerre qui est complètement fabriquée et qui est fabriquée sur des mensonges concernant des menaces qui existeraient.
Ça me rappelle quelque chose. Ça.
Et alors justement, c'est ce que disait Anthony, c'est pas sans rappeler certains faits récents de l'histoire.
On se retrouve avec ces mêmes questionnements. On a un personnage qui est persuadé, comme vous le disiez, de faire le bien. Et quand on le rencontre au tout début, puisque le système de narration fait qu'on est à un moment particulier de son existence quand le livre s'ouvre et qu'il se raconte finalement à un interlocuteur, on découvre ses surnoms qui sont tous plus abominables les uns que les autres. Puisque, entre autres, on l'appelle le tueur d'espoir. Enfin, vraiment, on sent que c'est un ennemi public numéro un. Or, c'est pas du tout ce que lui recherchait, c'est pas du tout son idéal, c'est pas du tout un personnage à la base sanguinaire.
No, he didn't. But you don't always get to be what you want to be. He is in some ways a victim of circumstance. And in some ways he's a victim of his own desire to always do the right thing. Instinctively, without thinking about the consequences, and you could say he allows himself to be persuaded when he shouldn't be.
Effectivement, lui ne cherchait pas à devenir méchant, c'était pas son but, mais on ne devient pas toujours ce qu'on voudrait devenir. Et d'une certaine façon, ce personnage est victime d'abord des circonstances qui l'ont amené là où il est. Et il est aussi victime de lui-même, puisque finalement, quelque part, et il s'en rend compte plus tard quand il commence à douter, il s'est quelque part laissé persuader que ce qu'il faisait allait être pour la bonne cause, et c'est ça qui l'a entraîné dans tout ça, et il s'en rend compte après coup.
Mais c'est quelqu'un qui apprend à respecter les ennemis qu'on lui a désignés.
Il le fait, oui. I think he has a capacity for recognizing the humanity in others. Regardless of what language we speak, we're all fundamentally the same, and he recognizes that.
Et donc, oui, il respecte ses ennemis, il apprend à savoir qui il va tuer, et quelque part, il y a une certaine forme d'humanité chez lui quand même, même si il va tuer des gens.
Alors, dites-moi si je me trompe, mais moi, il m'a fait penser par certains côtés à Lawrence d'Arabie.
Yes, I have to say Lawrence of Arabia wasn't in my mind when I thought about him, but certainly it's a fair comparison. Yeah.
Je dois avouer que moi, j'avais pas du tout Lawrence d'Arabie à l'esprit quand j'ai créé ce personnage, mais j'avoue que effectivement, la comparaison est tout à fait justifiée.
C'est peut-être la scène de l'Oasis aussi qui influence, peut-être. Lionel, je parlais des contre-champs d'une certaine manière, ou en tout cas de non pas forcément de l'Empire, mais des peuples qui sont visés par cette politique impérialiste. On voit finalement les réactions très différentes en fonction des nouvelles auxquelles on assiste par rapport à cette volonté. Et il y a une nouvelle en particulier, ou alors c'est carrément dramatique, puisque c'est carrément l'annonce de la disparition. On n'est pas du tout dans l'assimilation ou dans l'intégration. On est vraiment carrément dans un génocide presque programmé, mais qui n'est pas du tout voulu au départ finalement. Et on se retrouve face à une situation qui est totalement immaîtrisable. Tout le monde ne combat pas l'Empire, finalement.
Tout le monde ne combat pas l'Empire, et certains, d'ailleurs, le considèrent comme... moi, j'aime assez la vision shakespearienne du rouleau compresseur de l'histoire, même s'il n'y avait pas de rouleau compresseur à l'époque de Shakespeare, en tout cas pas que je sache. L'Empire et ses courants historiques comme ça, c'est presque comme des orages auxquels il est difficile de résister. Une leçon que j'ai hontément piquée à Orwell dans 1984, c'est pourquoi est-ce que le système de 1984 fonctionne. Pour moi, c'est le grand coup de génie d'Orwell, c'est que, en fait, le système de 1984 est une idée et chacun, à son petit niveau, a intérêt à maintenir l'idée. Et c'est pour ça que ce système qui est atroce au niveau macro tient au niveau macro, parce que chacun au niveau micro continue à contribuer à le faire fonctionner. Et c'est une des raisons une des questions que je me suis posée en me disant comment est-ce qu'un empire totalitaire comme ça peut fonctionner sur une période de 1000 ans. Et bien, peut-être justement parce que, et c'est ça le truc le plus dangereux, c'est que c'est une idée. Et que chacun est tellement plongé dans cette idée que les gens vont continuer à le faire fonctionner. Et c'est même le cas chez les peuples qui sont conquis, qui certains d'ailleurs voient arriver l'orage au loin en se disant c'est comme un tsunami, on ne peut pas résister à ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de blesser leur psyché. Et peut-être si on les fait douter, eh ben, ça va durer dans les siècles plus tard. Et c'est peut-être la blessure la plus grave qu'on puisse leur infliger. Ça a l'air assez sérieux comme ça, mais je vais quand même mentionner qu'il y a des bassons aériens avec des robots géants et des dragons, des fois. À un moment aussi.
Olivier Gay, au lieu de vous esclaffer pendant que je regarde les antisèches pour ne pas me tromper dans le nom des personnages, je voulais qu'on dise un mot de Maline, parce que Maline, c'est l'archétype du brave gars, quoi. Et il se retrouve, parce qu'il est plein de bonne volonté, il va créer tout un tas d'ennuis à tout le monde, y compris lui-même. Juste parce qu'il a voulu faire un bon geste, quoi.
Bah, c'est vrai que de manière générale, moi j'ai toujours tendance à préférer les personnages torturés, ce qu'on appelle les anti-héros. Quel que soit le livre, d'ailleurs, j'ai une série policière où le héros est un loser, dragueur, alcoolique qui vend de la drogue. Ma série pour les ados, l'un des héros, il rackette ses élèves en seconde. Donc moi j'aime bien en fait ces personnages, et donc Rek, qui est ce qui peut se rapprocher le plus près d'un héros finalement dans les Épées de Glace, en tout cas d'un personnage charismatique, c'est quand même quelqu'un qui a limite génocidé un peuple. Donc c'est vrai que voilà, j'aime bien en fait prendre
c'est le diable de Tasmanie un peu.
Ouais, voilà, il est pas très sympathique à avoir, et encore moins sympathique à avoir comme beau-père. Donc comme quoi, c'est vrai qu'en fait, je trouve ça intéressant d'avoir des personnages qui ont énormément de défauts, et ensuite d'essayer pendant le livre de les rendre intéressants et de les rendre sympathiques au lecteur. C'est-à-dire qu'à la fin, les gens disent mais Rek, en fait, je l'aime bien, ou les autres personnages, je l'aime bien, alors que c'est quand même voilà, à la base un personnage un peu difficile. Et donc on a Maline. Maline qui, alors déjà Maline, il a 19 ans, donc il est objectivement, il est plus jeune, il connaît un petit peu moins la vie. Lui, il a été élevé avec des histoires de chevaliers qui sont en blanc, d'ennemis qui sont en noir. Il a gagné une distinction qui est l'épée d'argent de l'Académie des gardes, qui, donc il est convaincu d'être une fine lame. Alors que voilà, enfin, je trouve plus le mot en français, c'est affreux, c'est un challenge, enfin, c'est un combat qui a été fait entre, un tournoi, voilà, merci, c'est un tournoi qui a été fait, non mais j'ai du mal, qui a été fait avec 15 adversaires, et on se rend compte à un moment que même en plus les personnes qui étaient expérimentées n'avaient même pas participé. Et lui est convaincu que voilà, parce qu'il a cette lame-là, voilà, c'est le cador, et il sait vraiment se battre.
Et il ne rêve que de ça, même de trouver sur le terrain.
Et il a des voilà, et puis il est chevaleresque, il est là pour protéger, il veut protéger sa servante, il y a plein de choses qu'il veut faire, mais il a pas les capacités pour. Et je trouve ça très intéressant de mettre en parallèle une espèce de tornade comme Rek, qui a lui toutes les capacités pour faire à peu près ce qu'il veut, mais ne les applique pas forcément dans le bon sens. Et Maline à côté, qui lui aimerait faire le bien, mais voilà, malheureusement, ça marche pas toujours.
C'est Gaston Lagaffe un peu. Hein,
ouais, que... il est malin, il est adorable, mais il est adorable. Quoi.
Mais c'est intéressant parce que par rapport à notre thème, on le voit évoluer aussi dans cet aspect-là, c'est-à-dire que c'est un serviteur de l'Empire. Il n'y a aucun moment où il se pose de questions là-dessus, sauf que confronté aux événements, bah ça coince quand même parce qu'il se retrouve face à un Empire qui réagit pas forcément comme il le souhaiterait, comme il l'imaginerait. Il se retrouve avec un personnage qui est donc Rek, qui est victime d'une injustice, qu'on le veuille ou non, et il comprend finalement pas pourquoi cette injustice, on veut la faire perdurer.
Ce que je trouve très intéressant dans la plupart des romans d'anticipation et dans tous les romans finalement où les gens rejettent le joug de l'Empire, on parlait de 1984 tout à l'heure, c'est que ça commence très souvent sur des histoires d'amour. C'est le cas dans 1984, c'est finalement le cas dans Les Épées de Glace, c'est-à-dire qu'à un moment... alors histoire d'amour ou d'amitié très forte en tout cas, mais à un moment le personnage se dit moi l'Empire ça me va, c'est très bien, je suis très content de ma vie, je suis très content de ma position, je suis garde, je suis respecté, voilà. Mais la fille que j'aime, mais ma copine, mais machin, elle c'est pas la même chose. Et là en plus c'est pire puisque c'est pas un spoiler, c'est le quatrième de couverture, la fille dont il était amoureux en fait premier chapitre elle se fait tuer. Et on lui dit, en fait, bah, oublie tout ce qui s'est passé, oublie même qu'elle a existé, ment sur son existence, parce que sinon, on va avoir des ennuis. Et lui, évidemment, est là en disant, quoi, bah, n'importe quoi, pourquoi est-ce que je mentirais sur son existence? C'est une fille qui donnait du sens à ma vie, parce que j'écris quand même super bien, donc c'est une fille qui donnait du sens à ma vie.
C'est donc Quichotte, là.
Attention. et du coup, il va faire sa première connerie, c'est-à-dire qu'il va aller voir le père en lui disant, oh, au fait, ta fille est morte. Et c'était pas forcément une bonne chose à faire.
Il ouvre la boîte de Pandore.
Voilà.
Un peu le même principe de question pour Nabil Wally à partir d'un personnage, puisqu'il y a, on l'a dit, quatre personnages centraux, en tout cas dans le premier tome. Mmh. On va voir que ça évolue au fil des tomes. Et puis, il y a quelques personnages secondaires. Moi, j'aurais voulu qu'on dise un mot par rapport justement à l'opposition ou à être avec l'Empire de Mazir. C'est un peu difficile d'aborder parce qu'effectivement, mais lui aussi, finalement... il agit en pensant faire quelque chose et puis il va se rendre compte que bah, les résultats obtenus ne sont pas ceux qu'il escomptait.
Oui, bah, ce qui m'intéressait vraiment avec le personnage de Mazir, pour le coup, c'était de... On voit bien, je veux dire, concrètement, le premier tome se divise entre une épopée et une intrigue. Donc une partie se passe donc totalement à l'extérieur, on parcourt les royaumes. C'est une course-poursuite entre quelqu'un qui est, comment dire, fidèle au trône et une autre personne qui est fidèle au clergé. Et donc ça, c'est pour la partie action. Et l'autre partie, c'est donc la partie intrigue au palais. Donc c'est le précepteur du prince qui va en faire un philosophe roi, un prince éclairé. Et donc là, on a d'un côté son rôle qu'il est censé avoir pour le clergé, et de l'autre côté, le rôle qu'il va remplir, c'est-à-dire un rôle de fidélité par rapport au trône. Il va plutôt l'aider. C'est un adjuvant, ça se dit. Ouais, j'ai oublié. Et ce qui m'intéressait en fait avec le personnage de Mazir, c'était de faire un personnage qui ne se reconnaissait absolument pas dans cette dichotomie contre l'empire, pour l'empire, contre le prince, pour le prince, et qui n'a absolument presque rien à voir avec les autres personnages. Je voulais faire un personnage qui allait de son côté lancer totalement une autre histoire, essayer de régler le problème, ce qui est selon lui est le problème, par d'autres moyens. Et en fait, il s'attaque à quelque chose qui est complètement différent en fin de compte, mais qui va quand même avoir des répercussions sur ce qui se passe dans l'Empire.
Il est quand même dans une quête de vengeance.
Non, je le vois pas du tout comme ça en fait. Pour moi, Mazir n'est pas du tout dans une quête de vengeance, il est dans une quête de justice. Il est dans une quête de justification de... comment dire ? Pour lui, ce qu'il va découvrir en fait à la fin du tome 1, c'est que des milliers et des milliers et des milliers de personnes sont mortes et en mourant, elles ont été spoliées par le clergé. Et c'est ça qui va le révolter. C'est-à-dire que c'est pas tellement le fait que ce soit l'Empire qui soit dirigé ou non par le clergé, etc. Ce qui va le révolter, c'est le sort qu'on a réservé à des êtres qui sont morts. C'est pas de la vengeance, il veut juste essayer de rééquilibrer les choses et de dire, attendez, les gars, on a tous fait une énorme connerie. Les gens qui sont morts, on les a traités d'une manière qui n'est absolument pas possible. Il veut essayer de corriger ça. C'est ce qu'il va essayer de faire à partir du tome 2.
Oui, parce que dans le tome 1, il précipite le chaos d'une certaine manière.
Oui, et puis il faut bien que je vende le tome 2 quand même.
Oui, mais après on spoil et tout. Enfin bon, c'est compliqué. C'est compliqué de parler des cycles. Anthony Ryan, dernière question avec vous. On a cette quête, là aussi finalement, de justice, bien plus que d'autres choses à travers ce personnage. On l'a dit, il y a aussi une quête de pouvoir qui est parallèle. On se dit qu'on va là encore avoir des intérêts divergents avec finalement celui qui était le principal allié de l'Empire pourrait très bien très rapidement devenir son principal ennemi.
Yes, he's a disembodied enemy, but he's kind of, in some ways, created the Valyrian Empire in his own image, and it's not a pleasant picture.
Oui, en fait, c'est un petit peu une sorte de d'ennemi désincarné. Qui va finalement se retourner contre cet empire. Enfin, c'est pas une très très jolie image.
Mais c'est quand même aussi, et on le voit un petit peu avec les uns et les autres, c'est le serpent nourri dans le sein de l'empire finalement.
Exactly. The Valyrians have been seduced by the promise of immortality, but they haven't really thought it through. But people who achieve power through relatively easy means often don't think things through. They tend to think things will just continue the way they are forever. And of course, as we're finding out, as the oil starts to run out and so on, that's not always the case.
Oui, finalement, on se rend compte que les Valoriens, donc les habitants, ont été séduits par des promesses, par des fausses promesses. Ils sont persuadés qu'il y a une certaine stabilité. Et finalement, le pouvoir a ses propres enjeux. Et on se rend compte que, bien que tout le monde aurait voulu que la situation perdure telle qu'elle était, les choses ont évolué et pas dans le bon sens.
Ben voilà, on arrive au terme de cette table ronde autour du pouvoir. Vous voyez qu'on a beaucoup de trames assez communes autour de quatre univers très différents les uns des autres, traités aussi de manière très différente, avec des personnages. On n'a pas beaucoup évoqué la question de l'humour, par exemple, avec Olivier, mais c'est vrai que Les Épées de Glace, c'est quand même aussi... c'est aussi un roman très drôle, parce que là, on a un peu parlé de choses assez sinistres, mais il faut le dire aussi. Et puis voilà, il y a énormément de richesse et de diversité dans ce plateau, et en même temps, vous l'aurez compris, des trajectoires qui parfois peuvent se rejoindre ou être mises en parallèle. Et bah voilà, vous avez l'occasion de les découvrir au cours de ces 4 jours un peu plus en détail. Et puis pourquoi pas d'aller continuer la discussion sous la bulle du livre avec les auteurs pour vous faire dédicacer les livres. Sauf avec Lionel qui va aller bosser maintenant.
Merci.